Non, je voulais dire que d'abord, bonjour, j'ai pas pu être parmi vous ce matin. J'étais d'ailleurs en atelier d'écriture et il y a un double hasard aujourd'hui, c'est que ce matin, j'animais un atelier d'écriture au collège Jules Michelet de Vénissieux et c'était mon collège il y a, je crois, 27 ans. Donc j'étais assez ému d'être au collège Jules Michelet ce matin. Chaque fois, je reviens sur. Bon, les professeurs ont changé, hein. Je n'ai pas retrouvé ma professeure de français d'alors, dont j'étais sûrement très amoureux, puisque c'est grâce à elle que je suis parmi vous aujourd'hui. Et puis, double hasard, il se trouve que Christophe, qui est à ma gauche, enseigne aujourd'hui au lycée Jacques Brel de Vénissieux. Et j'étais également élève au lycée Jacques Brel de Vénissieux. Donc voilà, je suis un peu ému. Donc je tenais à vous le dire. Et puis, bah, je sais pas, peut-être vous raconter un peu. Effectivement, j'ai plusieurs casquettes. J'ai commencé mon aventure poétique. Il y a plus de 20, même presque 30 ans, puisque en fait, je me suis aperçu que c'était en 1978, donc bah, il y aura bientôt 30 ans, en 2008. Nous étions donc, vous l'avez compris, à Vénissieux, et nous étions quatre passionnés de littérature en général et de poésie en particulier. Parmi les trois autres, il y a Patrick Vigetti, qui aujourd'hui est traducteur de l'italien et professeur de philosophie. Sylviane Crouzet, qui a longtemps été directrice des éditions Parole d'Aube et qui aujourd'hui s'occupe des animations et du salon de l'édition et de la résidence d'auteur au sein de la médiathèque Léo Ferret, pardon, à Grigny. Olivier Fischer, qui lui a quitté le monde de. Lui, c'était le plasticien des quatre. Il a quitté le monde des arts plastiques pour. Enfin, il n'en est pas très éloigné, mais il est aujourd'hui directeur d'une agence de communication. Il fait encore un peu de graphisme, mais il fait surtout de la communication. C'est l'agence Terre de Sienne. Et donc, moi-même, qui n'ai pas pu quitter. Mes origines, puisqu'en fait je suis le seul à être resté, en tout cas à temps plein, au sein de ce qu'on a appelé l'espace Pandora. Donc voilà, c'est une histoire qui remonte à 1978. Il se trouve que cette passion pour la littérature, on s'est dit qu'on allait la transmettre à ceux à l'époque qui nous côtoyaient, c'est-à-dire nos plus proches, nos plus proches voisins ou amis. Donc on s'est dit comment faire pour transmettre cette passion, peut-être en créant une revue qui s'est effectivement appelée d'abord Aube, ensuite Aube, Revue lyonnaise de poésie, et enfin Aube Magazine. Cette revue a vécu 20 ans, de 1978 à 1998. C'était un trimestriel, bon d'abord très artisanal, puisque c'était une revue qui a démarré à la photocopie. On l'a jamais vécu, on l'a jamais inventé ou on l'a jamais vraiment réalisé dans le cadre purement scolaire, puisque dès l'époque, on avait envie que cette revue échappe au lycée. Bon, il y avait une coopérative au lycée, on avait les moyens, on avait la possibilité d'éditer des choses, mais nous, on tenait à ce que la revue soit indépendante et on la faisait donc en dehors du lycée Jacques Brel, même si nous y étions pour la plupart, 3 sur 4. Et cette revue a d'abord été destinée donc à faire circuler la poésie qu'on aimait. La poésie qu'on aimait, c'était la poésie qu'on lisait. Donc elle s'arrêtait, je crois qu'à l'époque, elle devait s'arrêter en André Breton. Pour nous, c'était l'avant-garde. On ne connaissait pas de poète vivant. Hein, on était très jeunes. Et puis, pour rencontrer des poètes vivants, ben, il a fallu que l'on crée la revue, justement. Donc c'est vrai qu'on se contentait de publier nos propres textes aux côtés de ceux de nos grands aînés disparus. Cette revue s'est professionnalisée puisque avec la création de, en 81, avec la création, enfin pas la création des dragues puisqu'elles existaient déjà, mais avec on va dire l'arrivée de Jack Lang au ministère de la Culture, il y a eu à ce moment-là un éclairage particulier qui s'est porté sur les banlieues. Tout à coup, on s'est mis à s'intéresser aux banlieues et à ce qui s'y passait. Alors c'est vrai que ce qui s'y passait, ça a été surtout le hip-hop, ça a été surtout les tags, ça a été surtout dans le spectacle vivant certaines formes de danse, la poésie étant encore très marginale et marginalisée. Nous, naïvement, on s'est dit, il n'y a pas de raison, si le hip-hop est aidé, si le rap est aidé, il n'y a pas de raison que la poésie ne soit pas aidée. Et on est allé à cette époque-là frapper à la porte de la Direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes et à la porte de notre maire de l'époque, le maire de Vénissieux, en lui disant qu'on allait créer un lieu destiné à la poésie contemporaine. Déjà à l'époque, même si on connaissait pas toutes les familles, toutes les tendances, tous les auteurs de la poésie contemporaine, on avait comme slogan la poésie sous toutes ses formes et dans tous ses états. Ça peut paraître un peu œcuménique, mais on avait vraiment envie que la poésie circule et on s'était dit que pour que la poésie circule, il fallait que l'on privilégie non pas une seule forme, mais toutes les formes de la poésie. Et puis on avait un second slogan que l'on a abandonné depuis. Bon, on était très jeunes, hein. Moi je devais avoir 16 ans et demi, le plus âgé avait 18 ans, et on avait un slogan, c'était la poésie ou la mort. Bon, maintenant ça serait plutôt la poésie et la vie, j'ai quand même du mal à me faire passer pour un poète maudit, généralement, donc je regarde l'heure, hein, Martine, et... ça va ? Oui. Et donc, de cette revue, on a eu une seconde chance liée à une rencontre. Moi, je crois que ce qui a jalonné un peu le parcours et l'aventure de la revue Aube d'abord et de l'espace Pandora ensuite, ce sont les rencontres qui ont beaucoup compté. Les rencontres en chair et en os avec des écrivains vivants d'aujourd'hui. Et il se trouve que... En 1900, ça fait un peu histoire, géographie, la géographie étant limitée pour l'instant à Vénissieux, mais il se trouve qu'en 1979, la directrice des arts plastiques de la ville de Vénissieux, qui s'appelait alors Madeleine Lambert, qui vit toujours mais qui a pris sa retraite depuis, nous invite, l'équipe de la revue Aube, à un vernissage, ça devait être d'ailleurs le premier vernissage d'exposition auquel nous participions, nous invite au vernissage de l'exposition Bram van Velde, peintre que nous ne connaissions pas, bien entendu, à la mairie de Vénissieux. Et ce jour-là, parmi les invités proches de Bram van Velde, il y avait un homme qui s'appelait Charles Juliet. Et donc je suis allé vers lui, poussé par un élan, peut-être par l'adolescence et par je sais pas quoi. Et je suis allé vers lui en lui disant que j'étais le nouvel Arthur Rimbaud et qu'il fallait compter sur, enfin qu'à l'avenir les gens allaient pouvoir compter sur mon œuvre. Et donc Charles Juliet, je ne le connaissais pas, il est pas tellement dans ce registre-là. Donc il a été bon, c'est, je sais pas s'il a été séduit, mais en tout cas, il m'a raccompagné en voiture chez moi, parce que le soir. Et, 3 semaines plus tard, je recevais par la poste l'ouvrage paru chez Fata Morgana, Les rencontres avec Bram van Velde, ainsi que le premier tome de son journal, paru dans la collection de POL, qui n'était pas encore, c'était pas encore les éditions POL, c'était encore chez Hachette, le tome 1 de son journal. Et c'est vrai que je parle de Julien, ça a été très important pour nous puisque on se voyait assez régulièrement dans des cafés de la place Bellecour et il nous a, on va dire, permis d'accéder à la littérature contemporaine en chair, en os, avec des, il nous a fait découvrir des écrivains vivants, parmi lesquels je pourrais citer quand même des gens qui ont compté pour nous et qui comptent encore pour nous. Je pense à Bernard Noël, par exemple, à André Velter, à Jean-Pierre Siméon, qui était là ce matin. Il nous a fait connaître des auteurs dont on s'est un peu éloigné depuis, mais qui, à un moment, ont tout de même compté pour nous. Je pense notamment à Christian Bobin, dont le parcours est allé un peu vers les anges, mais bon, il y a de la chance. Nous aussi, on aimerait aller vers les anges parfois. Et donc, ces rencontres-là, tout à coup, nous ont non seulement bouleversés, parce qu'humainement, quand on est très jeune et qu'on rencontre, je sais pas, je pense à quelqu'un comme Bernard Noël notamment, et qu'on commence à lire ses livres, il se passe quelque chose. Même si on a lu André Breton ou Arthur Rimbaud, il se passe quelque chose, parce que tout à coup, on voit que la littérature, elle existe, elle est réelle, et en plus, on peut entendre les voix. Je dis ça, ça paraît anecdotique, mais pour moi, c'est très important, puisque j'ai toujours situé le travail de l'espace Pandora et les actions qu'on a pu mener, à la fois dans l'écriture, bien entendu, mais dans la parole, enfin dans la voix. Hein. Pour moi, ce qui fait que je m'intéresse davantage à la poésie, qu'aux autres genres littéraires, c'est que la poésie est pour moi une affaire, d'abord une affaire orale. Et bien sûr, on peut la lire chez soi, tranquillement, intimement, avant de s'endormir ou à d'autres moments. Mais j'ai toujours, dès ce moment-là, eu envie d'associer les textes que je lisais à des voix. Et c'est pour ça, quand je disais tout à l'heure la poésie sous toutes ses formes et dans tous ses états, je pense que ce qui nous a motivés, ce qui nous a intéressé, l'équipe de Aube d'abord, puis de Pandora ensuite, ça a été d'entendre. On a voulu, dès ce moment-là, peut-être aussi parce que la revue ne suffisait pas, on a voulu, dès ce moment-là, faire entendre la voix des poètes. Et c'est comme ça qu'on a commencé, sur Vénitieux même, à inviter des écrivains, des poètes, à venir dire leurs textes, en prenant le risque, parfois, que effectivement, quand un écrivain dit un texte, ce n'est pas du théâtre, on n'est pas dans le même registre, et en prenant le risque de la fragilité, d'une certaine du silence aussi. Hein, pour ceux qui connaissent Charles Juliet, ses lectures sont parfois peuplées de silence. Mais pour nous, on avait vraiment envie de donner à lire et à entendre en même temps. Et puis surtout, on était assez naïfs quand l'aventure a commencé, puisque on était persuadé que tout le monde allait être pareillement passionné par la poésie. On s'était dit, bah, c'est facile, nous, on est passionnés, donc nos amis, nos proches le seront. Et on s'est aperçu que c'était pas gagné d'avance. D'où l'idée, en plus de la revue, d'avoir un lieu pour pouvoir accueillir aussi des écrivains et des poètes. Et d'où, très vite, l'idée, ce n'était pas encore à la mode à l'époque, hein, au début des années 80, mais de commencer à faire des ateliers d'écriture, et en faisant en sorte que ces ateliers d'écriture soient animés par les poètes, puisque on avait envie que ces poètes puissent être directement en lien avec les différents publics. Voilà, ça c'est l'étape numéro 1. Je vais aller vite pour l'étape numéro 2, c'est la partie, on va dire, édition, puisque c'est vrai que porté par les écrivains que nous avons publiés dans la revue, et puis poussé sans doute par l'amour des livres, moi je me souviens, j'avais une collection qui m'a beaucoup touché quand j'étais adolescent, c'était la collection Poète d'aujourd'hui chez Segers. Bon, aujourd'hui ça fait un peu ringard, mais c'est vrai qu'à l'adolescence, à la bibliothèque de Vénitieux, la collection qui était, c'était même pas Poésie Gallimard, c'était vraiment Poète d'aujourd'hui chez Segers, Hein, la collection qui, puis il y avait la photo des poètes, il y avait des fois leur écriture manuscrite, il y avait plein de petites choses comme ça qui faisaient qu'on avait l'impression d'entrer un petit peu dans l'intimité des auteurs. Elle existe toujours, hein, mais elle a pris une autre forme aujourd'hui. Je trouve qu'elle est un petit peu plus universitaire, et un peu moins, accessible au plus grand nombre, quoi. Elle est un peu froide. Elle a été chaude par ses couleurs, par ses photos, par ses illustrations. Aujourd'hui, elle a tendance à... On dirait que c'est un peu réservé aux initiés. Je continue. Maintenant, je suis devenu un initié. Mais pour cette époque-là, pour moi, c'était très important, cette collection. Et donc, on s'est dit, mais il faut créer une collection d'ouvrages. Et ce qui serait intéressant, c'est de remplacer l'étude, l'analyse ou l'appareil critique se trouvant en début d'ouvrage par un entretien avec l'auteur. Parce qu'en fait, on s'est dit, bon, c'est bien des études sur des auteurs, mais souvent, les auteurs qu'on fréquentait étaient vivants. On s'est dit, faire appel à quelqu'un pour écrire sur un auteur vivant, est-ce que c'est judicieux? Enfin, on était dans cette interrogation-là. On disait peut-être que on pourrait tout simplement, tout naturellement, aller questionner l'auteur sur les questions qu'on se pose, et puis ensuite faire un peu ce que faisait la collection Seger, c'est-à-dire y ajouter des photos, des pages manuscrites, et puis des textes inédits. Et c'est comme ça que sont nées les éditions Parole d'Aube. Et puis là, on était quand même un petit peu moins sectaire. Les années avaient passé, on avait atteint 25-30 ans, donc on avait oublié un petit peu le slogan de l'époque, la poésie ou la mort. Et on s'était ouvert, on s'était dit, si on reste enfermé dans la poésie, au sens vraiment strict du terme, on va peut-être ne pas atteindre notre cible. On avait quand même cette envie, cette idée, peut-être avec un peu d'utopie, de toucher le plus grand nombre de gens possible. Donc on s'est dit, on va aller vers ce qui pour nous était le plus proche de la poésie, c'est-à-dire les sciences humaines, les sciences sociales, parce qu'on avait l'impression que poésie et philosophie, par exemple, devaient faire bon ménage. Et donc, à partir de ce moment-là, donc, sont nées les éditions Parole d'Aube. On a développé sur Vénissieux dans un premier temps, ensuite sur l'agglomération lyonnaise et enfin sur la région Rhône-Alpes et ailleurs, des rencontres avec des écrivains, plus les ateliers d'écriture. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un, je parlais tout à l'heure de Charles Julliet, il y a eu trois noms qui ont un peu marqué notre parcours. Ça a été d'abord Charles Julliet, ça l'est encore, puisque c'est quelqu'un que l'on voit encore régulièrement. Il y a eu Jacques Derrida, que pour d'autres raisons, on l'a fait venir à Vénissieux pour des rencontres, et ça a été vraiment très émouvant de faire venir Jacques Derrida au cinéma Gérard Philippe à Vénissieux, de le faire venir à l'espace Pandora sur des thèmes qui lui étaient chers comme l'hospitalité et le pardon. On a pu faire un petit livre avec lui. Et Derrida devint un public composé à la fois, bien entendu, de gens qui étaient venus pour assister à sa conférence, à une rencontre avec lui. Mais Jacques Derrida, devant des mamans maghrébines et devant des gens qui étaient plutôt venus par curiosité, je trouve que pour moi, c'était extrêmement important. Il a bien voulu revenir à trois reprises. Et puis, il y a un dernier nom qui compte pour nous, même s'il est plus porté sur le théâtre, c'est Armand Gatti. Parce que dans notre parcours, il y avait aussi cet engagement politique. Je n'en ai pas parlé, mais qui faisait partie de l'aventure de Parole d'Aube et de Aube Magazine. Et d'ailleurs, le hasard fait que j'étais à Limoges avant-hier. Je suis rentré avant-hier de Limoges et je suis tombé. Et Gatti a été résistant à Limoges et dans la région de Limoges pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il vient d'écrire, il se trouve qu'en 2005, il est invité à Limoges pour des rencontres publiques. Je fais une petite parenthèse, mais je serai dans les temps. Je vais essayer de... Il se trouve qu'il a été invité à Limoges pour des lectures, des rencontres publiques en 2005. Et le jour où il arrive à Limoges, en octobre 2005, je crois, il apprend la mort de Georges Guingouin, qui fut un grand... je m'éloigne, mais c'est important. Qui fut un immense résistant, maire de Limoges, 2 ans après la libération, un communiste libertaire, un type un peu à la fois rejeté par son camp et par l'autre camp. Et Gatti, donc frappé par ça, puisqu'il avait été sous ses ordres dans la résistance, vient de faire paraître un très beau texte qui s'appelle « Les 5 noms de résistance de Georges Guingouin ». C'est paru au bruit des autres, une sorte de poème un peu lyrique sur ce personnage. Bon, j'ai fini la deuxième étape, donc vous comprenez, j'essaye d'aller... Donc, les éditions sont nées ainsi. La vie d'une maison d'édition, d'une petite maison d'édition ou d'une maison d'édition indépendante n'est pas très facile. Nous portés par nos 2 premiers titres et nos 2 premiers succès, Christian Bobin, La Merveille et l'Obscur, André Velter, Autoportrait, il se trouve qu'on n'y connaissait rien à l'édition et que ces 2 titres ont bien marché dès le départ. Donc on s'est dit, bon ben l'édition c'est plutôt facile, et qu'on est passé de 2, puis de 6, puis de 10 titres par an à 45 titres en 98, ce qui nous a valu une faillite en termes commerciaux, j'entends. Donc ça a été assez douloureux, parce que nous on n'avait aucune idée de ce qu'était le commerce. Enfin, on avait fait du commerce, on brassait de l'argent, mais pour nous c'était assez facile. Puis c'est vrai que quand un livre de la collection Entretien marchait, on en profitait pour publier 10 d'ouvrages en poésie contemporaine avec des gens très différents. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous a souvent reproché, que ce soit au niveau de l'espace Pandora, je fais encore une petite parenthèse, mais elle a un sens par rapport à mon propos, ou aux éditions Parole d'Aube, on nous a souvent reproché de ne pas appartenir à une famille d'auteurs, de ne pas appartenir à un clan. Mais je crois que ça vient du fait, tout bêtement, que quand on est en banlieue, on est déjà un peu en marge de quelque chose. On est un petit peu ailleurs. C'est vrai que moi, je me souviens à l'époque des éditeurs lyonnais qui étaient très lyonnais, et ou alors qui faisaient un vieux complexe par rapport à Paris. Nous, on n'a jamais eu ce complexe, parce que quand on est en banlieue, tout est à faire, tout est à inventer. Donc, on n'a pas eu de complexe du tout. Et puis, moi, j'avoue, en tant que lecteur, j'avoue aimer des choses. J'avoue prendre plaisir, surtout en poésie. Je lis très peu de romans, mais en poésie, j'avoue aimer lire des choses très, très différentes les unes des autres. Surtout quand il m'est arrivé d'entendre la voix des poètes avant. Et là, il y a leur musique et tout ça revient. Bon, l'édition, ça se termine mal en 98 avec Parole d'Aube. On a la chance de rebondir depuis, puisqu'en 99, on crée une autre maison, plus modeste, plus petite, avec moins d'aura, qui s'appelle La Passe du Vent, qui continue à publier quelques livres d'entretien et de la poésie, avec quelques essais. On a commencé aussi au départ à publier des œuvres de fiction. On a quasiment arrêté, pour privilégier justement la poésie, les entretiens et les essais. Et puis surtout, depuis 2002, notre travail ayant peu à peu porté ses fruits, on a été missionné par les partenaires, on va dire, institutionnels, officiels, la région Rhône-Alpes d'une part, le ministère de la Culture qui pourtant nous soutient depuis longtemps, mais les choses se sont officialisées, on s'est marié un peu plus depuis 2002, la ville de Vénissieux, les villes de Grigny, Bron, Villeurbanne, Givors, avec lesquelles on collabore également, et la ville de Lyon, puisque depuis 2002, en plus d'un, je vous distribuerai tout à l'heure, en plus d'un festival qui s'appelle Parole Ambulante et qui existe depuis 1996 sur l'agglomération, nous avons été missionnés pour organiser et coordonner la semaine de la langue française en Rhône-Alpes, sur tout le territoire de Rhône-Alpes. C'est une aventure que l'on mène avec l'équipe du Théâtre des Asphodèles à Lyon. Et nous avons été missionnés par la ville de Lyon pour animer, organiser, coordonner également le printemps des poètes à Lyon. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Il y a le versant ou le volet manifestation, animation, qui pour nous est très important. Alors là, j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais on a peu de temps, donc à la limite, je vous donnerai des documents, comme ça, ça vous permettra de d'entrer dans le vif du sujet pour voir un petit peu ce que nous proposons. C'est vrai que la semaine de langue française, parmi les manifestations que nous organisons, est sans doute celle qui est à la fois la plus périlleuse et en même temps qui nous demande le plus de temps et d'énergie, puisque c'est une manifestation sur laquelle nous travaillons toute l'année. Puisque notre mission étant justement d'associer professionnels et amateurs, public, on a parlé d'initiés tout à l'heure, et public vraiment non initié, et surtout d'essayer de toucher des gens qui sont vraiment très éloignés de nos préoccupations autour de la littérature ou de la langue. Donc c'est un travail toujours sur le fil, parce que on en parlait un petit peu avant de commencer cette rencontre. C'est, quand je dis que c'est toujours sur le fil, il est très difficile d'essayer de parler au plus grand nombre sans sombrer ou tomber dans la démagogie. Hein, nous, notre principe, c'est quand même d'essayer de tirer les gens vers le haut. C'est vrai que parfois, aujourd'hui, on a plutôt tendance à faire en sorte de... Il y a un certain relativisme qui règne et on pense que tout est un petit peu pareil. Hein. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose qui... C'est toujours très difficile. C'est une opération qui nous demande vraiment beaucoup d'énergie. On peut se tromper parfois, mais... Elle essaye de, on va dans les prisons, on va dans les maisons de retraite, on va dans les hôpitaux psychiatriques, on a envie et plus qu'envie même d'aller vers ces publics dit je sais pas, aujourd'hui il y a une formule, c'est les publics empêchés. Voilà, et pour conclure en fait, il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire, mais pour conclure aussi, parmi les publications liées à ces actions, on essaye aussi de valoriser. On publie aussi parfois, pas systématiquement, là aussi c'est important de le souligner, des ouvrages liés à des ateliers d'écriture, à des rencontres avec des écrivains et des publics.